Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo, sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Si vous écoutez Le Club, vous savez déjà que Tika Moon est partenaire de l'émission pour toute l'année. Et j'en suis ravie parce que c'est vraiment une belle marque, engagée et durable. 80% de leurs meubles sont en bois massif, ce qui permet de les réparer plutôt que d'en acheter d'autres, de les recycler, mais surtout, ils sont solides et ils peuvent traverser les générations. Ce même bois est évidemment sourcé et travaillé par des artisans. Chaque meuble est construit en assemblage traditionnel, ça veut dire qu'il est monté par un ébéniste. Il n'est pas collé, pas vissé, monté sans quincaillerie, comme un Tetris. Il n'y a pas non plus de superflu, ce qui permet d'économiser les ressources. Il n'y a pas de gâchis, le peu qui tombe par exemple pendant la coupe est réutilisé pour autre chose. Ils ont le label FSC, évidemment, et leur méthode est reconnue par tout un tas d'organismes officiels, que je ne connais pas bien. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a leur site internet, bien sûr, tikamoon.com, ou désormais deux boutiques, une à Paris, une à Lille. Tout ceci étant dit, maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans le club, bonjour les filles.
Salut. Bonjour. Hortense.
Coucou Hortense.
Alors on enregistre toujours dans un lieu différent et aujourd'hui nous sommes dans un appartement Edgar Suite. Alors c'est un concept que je connaissais pas mais que je trouve génial. Enfin si je connaissais parce que c'est le concept des appart-hôtels. Mais Edgar Suite c'est une nouvelle génération d'appartements qui sont tout équipés et dotés des commodités d'un hôtel 5 étoiles, que ce soit pour l'équipement ou l'accueil, en plein cœur des villes et imaginés par des architectes. Alors là, on est dans le 10e arrondissement, dans l'une des dernières résidences qui a ouvert en décembre dernier. Alors résidence, en fait, ça veut dire résidence hôtelière. En gros, c'est un immeuble. Là, il y a 5 niveaux et 14 suites qui vont de 20 à 65 mètres carrés. Et tout ce projet, tout cet immeuble-là, il a été entièrement pensé par l'architecte Bernard Dubois, qui a été inspiré par les codes, m'a-t-on dit, du cinéma américain, qui a imaginé une ambiance qui est très chaleureuse. Il y a des couleurs chaudes, des matières naturelles. On est entouré de bois, donc ouais. Billy, ça doit te plaire.
J'adore.
Très chaleureux, très et du mobilier sur mesure aussi, qui a été fabriqué en France par des artisans locaux ou les compagnons du devoir.
Bah, on est assis sur des très jolies chaises d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. C'est la 6e adresse à Paris et ils sont implantés déjà dans 8 villes de France. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui qui va être bien riche, Violaine Bellecroix, styliste, directrice artistique, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 médias avec Mozilnik. Non mais je trouve que c'est important.
Bientôt ça prendra toute la longueur du podcast, tu sais, de tout citer.
Violaine, tu vas nous parler de livres de cuisine qui sont souvent de très beaux objets, plein de jolies photos inspirantes et de cuisine qui font rêver. Mais toi, ton angle, ce sera plutôt, je crois, de faire ses courses différemment, de cuisiner les aliments.
De cuisiner pour être en transition.
Super. Marie Farman, journaliste design et cofondatrice de la marque Ava, avec la designer Charlotte Juillard, dédie sa chronique à la montagne design. Marie.
C'est ça.
On résume, on dit un peu plus pour faire...
Non.
C'est la surprise.
Non, mais...
Montagne, c'est les stations de ski.
Voilà, les stations de ski, pensées par des grands designers et grands architectes.
Génial.
Oh là là.
Et on commence avec Billy Blanquette qui va nous parler. Billy Blanquette, attends,
oui,
il faut que
j'aimerais
je te décrive.
C'est ce que j'allais
Pardon.
Dire. Bah merde, moi,
Oui.
Journaliste,
je voudrais la liste. Des...
Journaliste déco et très présente sur Instagram, sur le compte du même nom, Billy Blanquette. Ça te va?
Voilà, je fais des photos, j'écris des livres.
C'est vrai.
J'élève 3 enfants.
Et un chien.
Un chien.
Et toi, tu vas nous parler des tendances déco en 2024.
Oui.
Alors, c'est parti.
Absolument. Je voulais vous parler des tendances déco. Déjà, je sais qu'on est en février, mais comme on ne s'est pas vu en janvier, je voulais souhaiter malgré tout une très bonne année à ceux qui nous écoutent. Qu'elle soit harmonieuse, douce, joyeuse, pleine de santé, évidemment. Et bien sûr, qu'elle soit sous le signe de la déco. Cela va de soi. Alors, comme beaucoup, je reviens du salon Maison et Objets. J'ai arpenté les rues de Paris pendant Paris Déco Off. Et j'ai donc eu le temps de humer les dernières tendances et de voir ce que 2024 nous réserve. Eh bien, sachez qu'en fait, il y a plusieurs tendances et complètement différentes les unes des autres. Donc, je dirais que 2024 est l'année de toutes les tendances. Une année pleine de contradictions.
Merci, bonsoir.
Voilà. Voilà. Et donc, c'est terminé. Voilà. Une année pleine de contradictions, mais en même temps, vu le monde dans lequel on vit, c'est pas vraiment étonnant. D'autant que la liste n'est pas exhaustive, car en plus de ces différents styles dont je vais vous parler, on en voit aussi qui se mélangent entre eux. Mais quoi qu'il en soit, heureusement, quelque chose nous réunit tous, que l'on choisisse une tendance plutôt qu'une autre, c'est que nos maisons sont nos refuges, plus que jamais, de véritables espaces où l'on se sent en sécurité et que l'on aime choyer. Alors c'est parti, première tendance qui a toujours autant la cote, le vintage. Après les années 50, puis 60, nous voilà revenus aux années 70. Donc, qui dit style 70s dit déjà couleurs vives. Et en effet, on voit énormément de couleurs très, très pop. Du orange flashy, du rouge vif, du vert pomme, du jaune citron, du bleu électrique. Des tons qui pètent. On en a vu d'ailleurs énormément au salon. Il y avait notamment chez Popus, qui est une marque, j'ai vu que tu avais cité, qui est hyper Popus. Je ne sais pas comment tu cites Popus ou Popus, non ?
Popus, oui.
Popus, oui, c'est
ouais,
ça. Je crois. Ouais. Donc, il y en avait notamment chez Popus qui propose toujours du mobilier et des luminaires hyper colorés. Chez Enclavering, je suis passée, il y avait des accessoires, des miroirs, des petites stèles. J'ai vu énormément de stèles. Je ne sais pas pourquoi cette année. Je sais pas. J'avais peut-être envie de monter dessus. Chez Pulpo aussi. Enfin bref, toutes les marques s'y mettent. Ensuite, les années 70, c'est aussi caractérisé par tout ce qui est métal et plastique, qui sont donc, comme vous le savez, des matières lisses et brillantes. Et donc, il est vrai qu'on revoit beaucoup de brillants, de laque, de miroirs, de verre aussi. Le mobilier tubulaire revient en force, qu'il soit en inox laqué de couleurs, comme par exemple chez les Belges Muller van Severen, qui font de très belles pièces de mobilier, ou sinon en inox tout court. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a eu à nouveau la réédition par Monoprix des collections prises uniques vintage avec des tables et des fauteuils en métal tubulaire notamment de Gaio Lenti. Donc, on peut clairement dire que l'inox remplace doucement le laiton qui, lui, va disparaître tout doucement, à mon avis. Et voilà, donc on voit beaucoup d'inox brossé. Il y a beaucoup de cuisine aussi. On voyait plein de cuisines très tout en bois. Maintenant, on a envie de cuisiner en inox. Enfin, je sais pas, moi, j'ai envie de cuisiner en inox, du coup, maintenant. Et du verre, donc le verre aussi sous plein de formes, beaucoup de pavés de verre, du verre armé, du verre gondolé. Et pour couronner le tout, c'est le retour de la moquette, avec des motifs graphiques et arrondis, des tons très forts. Tout cela n'est pas sans rappeler le style Space Age, qui pour mes mots est un mouvement futuriste d'après-guerre et utopique des années 60, qui est né sur la côte californienne, qui est caractérisé par des formes organiques, souple et des matériaux modulables à la fois élégants et modernes avec un fini vernis et des couleurs éclatantes. Et là, on est vraiment en plein dedans. Donc, j'ai notamment remarqué, vous avez dû la voir, la marque 13 Desserts. Hyper sympa. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque, mais qui est hyper jolie. Un label d'édition français qui regroupe plusieurs designers et qui a fait un très joli fauteuil en acier tubulaire avec un filet pour s'asseoir qui est tendu entre les tubes. Une étagère laquée vert gazon avec des formes psychédéliques aussi. Donc voilà, on est dans le Space Age et dans les 70s d'une part. En parallèle de ce style hyper pop, qui peut avoir aussi un côté assez loufoque, il y a la tendance maximaliste. Donc là, on est plus dans l'accumulation, le mélange de styles qui va du rococo au style Napoléon III, les bibelots, les collections d'objets avec un côté cabinet de curiosité, des papiers peints à motifs. C'est hyper chargé. Et en réalité, c'est plusieurs styles de déco mélangés. Et ce qui ressort, c'est vraiment un certain goût pour la mise en scène. Du coup, gros retour de la tapisserie qu'on va commencer à voir un peu partout. J'en ai vu notamment chez Socialite Family qui en sort, mais il y en a plein qui commencent à sortir des tapisseries.
Qu'est-ce que tu appelles tapisserie?
Bah, la tapisserie, vraiment, alors comment
brodé,
c'est brodé, enfin qui est tissé à la main.
Un décor et mural.
Que, ouais, et que tu accroches comme un tableau, ouais. Comme la tapisserie de Bayeux,
d'Aubusson.
Ouais, d'Aubusson, enfin voilà. C'est un côté quand même assez vieillot, hein, mais.
J'adore.
Toi, t'adores, ouais. C'est des gobes poussières, ça, surtout. Pour moi, c'est des trucs où t'as plein de poussière, tu sais, tu secoues le truc. Mais en tout cas, c'est... Ouais, voilà, on y revient. Puis après, j'imagine qu'ils vont faire des trucs assez modernes, un mélange moderne, ancien. Voilà, donc, le retour de la tapisserie, les gros doubles rideaux brodés, la passementerie, les tissus sont hyper épais, comme les gros tweeds, les velours, les brocarts, les tentures, au sol, les tapis d'Orient. Il y a des fresques aussi, donc il y a un côté vraiment très théâtral. Un retour au style Second Empire avec ses fioritures qu'on retrouve pas mal chez pas mal de décorateurs comme Dorothée Médixon par exemple ou Laura Gonzalez ou encore Ovette et Madani. À l'inverse, donc ça c'était le style maximaliste, il y a le style minimaliste, donc rien à voir, qui n'est pas sans rappeler lui le style wabi-sabi qui je rappelle donc c'est un style japonais qui célèbre la beauté des choses simples et imparfaites et qui naturellement nous entraîne dans des univers aux matières brutes, aux tons neutres, à l'artisanat, les œuvres de créateurs, les canapés réconfortants où on se lovait avec ceux en arc de cercle qu'on a vu pas mal, je ne sais pas si vous avez vu au salon Maison Objet, il y avait plein de canapés en forme d'arc de cercle pour avoir de la place, mais bon. Donc une sorte d'osmose entre intérieur et extérieur avec des tons très naturels. Et un style qui nous rapproche tout doucement de la nature et des éléments et qui était lui pour le coup richement développé sur le stand de la scénographe, chasseuse de tendance et directrice artistique Elisabeth Le Riche. Qui, bon, selon moi, a toujours les plus beaux espaces avec des mises en scène superbes, et où elle a décrypté donc les trois grandes tendances autour de la nature et des éléments, avec tout d'abord un style végétal très chargé, beaucoup de fleurs, des papiers peints fleuris assortis au tissu des canapés, des tons verts associés avec des violets. Là, le violet, on va le voir encore, en mode comme en déco, c'est pas fini. Exit les papiers peints végétaux, hein, ça on oublie, hein, les palmiers, tout ça c'est terminado. c'est fini, mais heureusement, il était temps parce que là on commençait un petit peu à étouffer. Non, là on est plus sur les fleurs maintenant avec le style alors que je ne connaissais pas, cottage core. Voilà, cottage anglais, fleuri, très chargé, qui donne des envies de campagne anglaise. Donc je dirais un maximalisme végétal. Voilà, donc vous voyez, on peut mélanger en plus les styles entre eux. Et donc elle aussi mettait en avant sur son stand le retour à la terre, ce qui semble donc bien indispensable en ces temps troublés, le retour à ce qui a du sens, à notre ancrage, et donc au minéral avec des matériaux bruts, de la pierre, du travertin, de la terre cuite, de la lave, de la brique, des tons de terre, ocre, couleur pierre. On voit beaucoup d'albâtre, moi j'ai été frappée par le nombre de luminaires qui étaient en albâtre. Il y a Eno Studio, notamment, qui a sorti une jolie applique comme ça. Ça fait vraiment une très belle lumière. Et puis, dans ce même style, minimaliste, végétal, on peut aussi parler du béton qui, s'il était plutôt associé avec un côté, à un côté industriel, loft industriel, maintenant, c'est vraiment... il est apprécié pour son côté brut, épuré, qu'on marie avec des murs bruts, recouverts de chaux, de plâtre. Voilà, et qui se rapproche donc quand même du minimalisme, du wabi-sabi. Bon, bref, voilà, minimalisme naturel, tout ça, c'est un peu le même style. Voilà, donc en très résumé, les grands styles que j'ai vu se dégager en ce début d'année. Donc si on doit oublier, en résumé, deux trucs, c'est le laiton et les papiers peints végétaux qu'il y a dans tous les appartements que je vois en ce moment. Moi, je pense que c'est la fin, c'est les outsiders du moment. On revient finalement à quelque chose de beaucoup plus classique, plus chic, plus traditionnel, quelque chose qui nous rassure et nous ramène au bon vieux temps. Donc, la déco comme la mode sont un éternel recommencement. C'est à vrai. Vous les studios.
Merci, Billy. Qu'est-ce que vous aimez, Violaine? Quel style te parle le plus dans les tendances, là?
Oh bah moi, j'aime tout. J'aime bien le mélange, la salade grecque, quoi.
Bah oui, c'est ça. Ce qui est sympa, c'est aussi tout mélanger, finalement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est sympa. Il y a une tendance, mais il y a trois, quatre tendances, mais en fait, il y en a plein. Ouais. C'est que maintenant, les gens font tout ce qu'ils veulent, quoi. Il n'y a pas de... Si, je trouve que le papier peint végétal va commencer à se ringardiser.
Troisième fois qu'elle nous dit donc vraiment...
Faut décoller, là.
Faut décoller ou repeindre dessus.
Ouais, c'est ça. Bon, Marie...
On me demande pas ce que j'aime comme tendance.
Si, j'allais dire. Bah ouais. Tout à fait. Non, Marie, qu'est-ce que...
Moi, je suis un peu perdue. Il y en a beaucoup quand même.
Bah ouais, mais t'es d'accord que non, tu vois pas tout ça?
Non, mais j'aime tout et rien à la fois.
Ah ouais. Ah oui, j'aurais dit un peu minimalisme, toi,
plus, ça ferait plus c'est quoi ma sensibilité, effectivement. Ouais. Mais en même temps, j'aime beaucoup les fleurs et tout ça. Donc, je serais plus... Si je devais décorer un truc, je serais pas où aller, tu vois.
Mais il y avait tout ça, au salon. Il y avait tous ces styles, en fait. Ouais. Donc après,
oui, c'est drôle comme aujourd'hui il y a tous les styles alors qu'avant t'avais, tu vois, dans les années 70 t'avais un style et tout le monde avait un peu le même.
Bah oui.
Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs tu pouvais dater justement les apparts, tu voyais en
les
fonction.
Alors qu'aujourd'hui, 2020, pour les dater dans les bouquins, ça va être le bazar.
Si, le papier peint végétal.
Les palmiers.
La fiche.
Et les
perroquets.
Ouais.
Les flamants roses aussi.
Ouais. Ah, oui, c'est ça. Ouais.
J'ai un flamant rose dans la salle de bain, je vais le retirer.
Ah bah voilà.
Mais non, assume d'aimer les flamants.
Avec des appliques en laiton, non?
Non.
Non.
Des appliques en laiton, non. J'ai non, de la paille. La paille, moi, j'en ai marre.
Ouais, la paille, on va aussi. Rotin, oui, paille, c'est vrai.
Canage,
oui,
là,
le côté... oui.
Non, mais... folk, bohème,
oui,
naturel
bohème,
et
oui,
tout,
c'est ça, je pense.
J'ai un grand chapeau en paille, là, je peux plus le voir.
Ouais, Ouais. ça fait vacances. Bah, je sais pas, en même temps, ça fait vacances.
Mais ça dépend où
dans la chambre.
Si c'est
mets-le sur ta tête cet été.
Ouais, c'est ça.
Merci, Violaine, pour t'intervenir.
J'essaye de trouver du recyclage.
Recyclage, oui, recyclage, surtout.
Alors, Marie, on va à la montagne.
Oui, on va à la montagne, c'est l'hiver. Alors, si je vous dis Charlotte Perriand, Marcel Breuer, Norman Foster, Zaha Hadid, est-ce que vous savez quel est le point commun entre tous ces architectes et designers?
Oui. Ouais. Mais j'ai pas lu ta chronique. Hein.
C'est vrai.
Ils ont fait des immeubles, non, dans les stations de ski?
Ils ont tous conçu des bâtiments, des immeubles dans des stations de ski. Donc, cet hiver, j'avais envie de vous parler de ces stations conçues par des grands noms de l'architecture et du design qui sont parfois méconnues. Et qui pourtant valent le coup d'être redécouvertes et ou regardées sous un nouvel angle. Certaines même sont labellisées patrimoine du XXe siècle. Je vais commencer par faire un petit bref rappel historique du phénomène. Donc ça commence dans les années 60 et 70, en pleine période de la démocratisation des sports d'hiver. Donc parmi ces stations phares, on peut citer Flaine, Les Arcs, Avoriaz, Tignes, Les Menuires, La Plagne et d'autres. Ce sont des stations dites de troisième génération, c'est-à-dire qu'elles ont été implantées sur des sites complètement vierges. Donc en gros, entre 1964 et 1977, ce sont ce qu'on appelle des plans neige qui ont été mis en place par l'État dans le but d'aménager ces stations sports d'hiver pour un tourisme de masse, donc faire venir le plus de gens possible. C'est des stations qui sont sans voiture, ski au pied, comme on dit. Donc, architectes et designers ont été hyper sollicités pour relever ce défi qui changera les habitudes des Français en termes de loisirs. Donc souvent, ces stations, comme on va le voir, elles témoignent d'une vision architecturale et urbanistique d'avant-garde, même si à l'époque, elles sont très décriées, parce qu'effectivement, on est loin des petits chalets bucoliques en bois parsemés dans la montagne, ce qui peut aussi être très joli, mais là, ils arrivaient avec des propositions très fortes et assez marquées. Alors, un des exemples les plus significatifs et aussi les plus connus, ce sont les arcs, donc les arcs 1600 et 1800, qui naissent dans les années 70. C'est un projet qui est dirigé par Charlotte Perriand, une grande amoureuse de la montagne. Elle a 60 ans quand elle commence à s'attaquer à ce projet et ça durera 20 ans. Donc on peut vraiment dire que c'est son grand chef-d'œuvre et c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué sa carrière. Donc elle pense à la station des Arcs dans sa globalité, donc l'urbanisme, les immeubles incrustés dans la pente qui dénaturent pas l'environnement, les aménagements des appartements et bien sûr le mobilier à l'intérieur. Il y a deux exemples qui sont assez aboutis, qui montrent vraiment bien la philosophie et la vision de Charlotte Perriand aux Arcs. C'est la résidence Cascade et la résidence Versant Sud aux Arcs 1600. Elle ouvre même à l'époque une petite boutique pour éviter les dérives esthétiques et garder l'harmonie des lieux. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que les gens mettent n'importe quoi dans ses appartements. Donc elle propose une sélection d'objets du quotidien à petit prix, parce que vraiment c'était pour du tourisme de masse. Donc il y a bien sûr son mobilier, mais aussi des meubles et des objets dessinés par des grands designers de l'époque, ses contemporains, notamment Noguchi. Et on peut... Effectivement, il y a beaucoup de mobilier de Charles Perriand et d'autres designers aux Arcs qui ont été... depuis quelques années, revendus. On n'en trouve pas plus beaucoup, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup. Et les appartements se sont fait un peu vider les uns après les autres, parce qu'aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher. Alors, un autre exemple moins connu, c'est la station de Flaine, qui a été créée dans les années 60 par des mécènes et des amateurs d'art, qui s'appellent Éric et Sylvie Boissonnas. Donc, l'architecte qui va aménager, à qui vont confier la station entre 1960 et 1976, c'est Marcel Breuer, donc le maître du Bauhaus. En 68, lors de l'inauguration de la station, la première inauguration de la station, la presse qualifiait la station de Sarcelle des Neiges à cause des barres d'immeubles en béton érigées dans la montagne, qui sont vraiment très typiques de la vision moderniste de Marcel Breuer, mais ça n'a vraiment pas du tout plu.
Ça ne plaisait pas du tout.
C'est vraiment, ça a été très, très, très mal accueilli. Alors qu'aujourd'hui, Flaine connaît un retour en grâce. La Maison des Arts de la station, parce qu'il y a carrément une Maison des Arts, organise des tours pour aller visiter les bâtiments phares et notamment les super belles cheminées très sculpturales en béton de Marcel Breuer qu'on peut trouver dans certains hôtels de la station. On peut aussi aller visiter la petite chapelle œcuménique, en bois et en ardoise, conçue en 73, qui est vraiment extrêmement jolie et qui, surtout à l'intérieur, est pleine d'œuvres d'art, notamment de Simon Entaille ou de Buraglio. Parce que cette station, c'est une prouesse architecturale, mais c'est aussi une galerie à ciel ouvert. Comme je vous disais, c'est deux amateurs d'art qui ont créé cette station. Donc, il y a une bonne dizaine d'œuvres vraiment majeures qui sont disséminées un peu partout, dans les halls d'immeubles et notamment sur la place principale de Flaine, où il y a une très grande œuvre de Dubuffet, une autre de Vasarely et même une sculpture de Picasso. Donc, c'est vraiment des œuvres qu'on ne peut pas louper. Elles sont au milieu de la station, au milieu des cafés et elles se fondent parfaitement dans le paysage enneigé et j'imagine aussi l'été quand il n'y a plus de neige. Un dernier exemple méconnu lui aussi, qui est la Plagne, dont une grande partie a été aménagée et conçue par le designer Pierre Garriche. Donc Pierre Garriche, c'est un grand designer français des années 50 et 60. Donc la marque Sina, d'ailleurs, vient de rééditer une partie du mobilier. Il travaille avec deux autres architectes sur ses stations de sport d'hiver. Il va créer des nouveaux types d'hébergements, mais aussi des galeries commerciales et réfléchir à la meilleure façon dont on peut circuler et vivre dans une station de ski. Donc à la Plagne Centre, parce que la Plagne, il y a plusieurs spots, il conçoit des centaines d'appartements et de chambres d'hôtel adaptées à la pratique du ski. Donc c'est-à-dire avec du mobilier polyvalent, qui est combinable. Il crée des solutions innovantes pour aménager ses studios de manière assez standard, parce que c'est des appartements qui voient plein de gens défiler, qui restent peu de temps, donc il faut que ça soit vraiment super fonctionnel. D'ailleurs, on peut trouver dans certaines galeries de design vintage aujourd'hui des éléments qu'il a conçus pour l'aménagement des appartements de la Plagne, comme par exemple des chevets, des luminaires, des caissons de rangement, qui ont a priori rien d'extraordinaire, mais qui sont aujourd'hui vendus assez cher. Et comme aux Arcs, il avait lui aussi pensé une boutique de déco pour peaufiner son intérieur, encore une fois, pour pas dénaturer l'unité décorative et qui puisse vraiment que les gens puissent aller piocher comme ça des petites lampes, des petites choses, mais qui soient pas de mauvais goût, selon lui. Alors pour finir, je vais vous parler des constructions plutôt contemporaines parce qu'aujourd'hui, ça continue ce phénomène. La montagne, ça fascine quand même les architectes et les designers. Par exemple, on peut citer à Saint-Maurice, en Suisse, station assez chic, je crois, le bâtiment de Norman Foster, qui est un grand architecte britannique, qui s'appelle le Chessa Futura. C'est un immeuble d'habitation de luxe, de forme assez arrondie, comme un gros haricot avec une ossature en bois. Donc là, il a voulu conserver à la fois la tradition suisse avec l'utilisation du bois et en même temps faire quelque chose d'assez prospectif en termes d'utilisation des matériaux. Ensuite, on a Zaha Hadid, qui a conçu, elle, le Messner Mountain Museum, dans le sud du Tyrol, donc côté italien, avec un musée consacré en altitude, à peu près 2275 mètres d'altitude. Ce sont des bâtiments qui sont encastrés dans la montagne, avec une vue imprenable sur les Dolomites. C'est une vraie prouesse technique et technologique. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, à voir. Je vous invite à aller voir quelques images. Et en parlant des Dolomites, on peut faire un petit focus dessus parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtiments et d'hôtels très contemporains. Donc les Dolomites, c'est cette très belle chaîne de montagnes qui est au nord de l'Italie, mais qui est vraiment à la frontière autrichienne et du Liechtenstein, donc on parle allemand notamment. Et là, eux, ils sont vraiment très, très, très ouverts à aux prouesses contemporaines, à l'architecture contemporaine. Il y a beaucoup de choses, c'est assez spectaculaire. Donc j'ai pris quelques petits exemples comme ça, mais il y en a vraiment énormément. Ça peut vraiment faire aussi l'objet d'un voyage archi et design, parce qu'il y a énormément de choses. Donc, il y a le refuge. Alors, je ne parle pas du tout allemand, donc tous les mots sont en allemand, donc excusez-moi si jamais je... Donc, le refuge Oberholz, qui est un resto d'altitude. Donc, c'est trois cabanes contemporaines en bois noir, avec des grandes baies vitrées sur la nature. Et à l'intérieur, tout est en bois et en béton, c'est hyper minimaliste. Et pour les architectes, c'est une réinterprétation du refuge, de ce qui doit être le refuge aujourd'hui. C'est assez beau. Il y a aussi un musée qui s'appelle le Timmerloschpass Museum, à la frontière là, du Liechtenstein. Donc, c'est un musée qui est construit en béton et qui semble un peu être en équilibre au bord d'un rocher. Pareil, là, c'est assez impressionnant à voir. Et il y a aussi beaucoup d'hôtels qui ont été faits par des archis, des designers contemporains. Ce qui est drôle, c'est que souvent, c'est des hôtels assez typiques, donc en bois, des petits chalets, mais avec des extensions contemporaines. Ils adorent faire ça. Et là, je vais vous donner quelques exemples, mais il y en a vraiment énormément. Donc, par exemple, il y a l'Alpina Dolomite, qui est le plus symbolique quand si vous tapez hôtel archi Dolomite. Il a une architecture circulaire tout en bois et en pierre. Il y a aussi l'hôtel Forestis, qui est complètement intégré dans le paysage avec des lignes très pures. Ou alors aussi l'hôtel Hubertus, qui lui, pareil, c'est une extension contemporaine avec une piscine plongeante comme ça dans la montagne, super minimale. Donc, c'est une région qui est vraiment très ouverte à l'archi et au design. Et on ne le sait pas forcément, mais il y a un truc assez rigoureux aussi. C'est très intéressant à voir, puisqu'il y a une ambivalence avec le côté bucolique de ces montagnes, surtout l'été. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a quand même d'autres raisons que de skier pour aller à la montagne. Et quand il n'y aura plus neige dans les stations à cause du réchauffement climatique,
On verra bien les bâtiments. Violaine,
voilà, on verra bien les bâtiments et ça deviendra peut-être des lieux de pèlerinage pour faire des belles visites d'archi et design. Et il y a vraiment certaines stations qui valent le coup d'être redécouvertes, notamment Flaines, je trouve vraiment, va vraiment le détour.
Surtout, tu peux aller l'été.
Et tu peux aller l'été, bien sûr. Ouais.
C'est top la montagne l'été. Moi, j'allais aux Arcs quand j'étais petite. Mais je ne le savais pas, en fait. Je m'en suis rendu compte il y a peu de temps en allant à l'expo Charlotte Perriand. Et en fait, j'allais dans les appartements de Charlotte Perriand. Ouais. Et je m'en souviens parfaitement, la salle de bain rouge qui était complètement hallucinante et tout. C'était hyper sympa. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte après. Aujourd'hui, je me dis,
T'aurais pu voler un tabouret.
Je me disais, j'étais dans un appart de Charlotte Perriand, mais aujourd'hui, je tuerais pour être dans un appart de Charlotte Perriand.
C'est encore possible, il y en a plein à louer. Hein.
Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Ah, tu crois qu'on peut encore aller
louer? Oui, je pense.
Bien sûr.
De toute façon, c'est un mobilier qui est effectivement hyper costaud,
là, la structure de l'appartement, effectivement, c'est du Charlotte Perriand. Après, le mobilier, je pense qu'il y a moins en moins de mobilier parce qu'il a été volatilisé.
Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens, enfin, moi, je me souviens, mes parents, mais tout le monde disait, mais quelle horreur, ces immeubles, c'est affreux.
Non, oui, il a fallu 50 ans pour qu'on regarde ça différemment. Après, je comprends aussi par exemple, si on prend Flaine, c'est vraiment des barres d'immeubles en béton. Je comprends qu'on soit un peu dérouté par ce type d'architecture.
Oui, dans cette belle
nature. Mais c'est assez beau quand même.
Oui, c'est assez beau, je trouve. Ouais. C'est assez minéral.
Oui.
Ah bah Violaine, tu parlais, tu veux continuer?
Tiens, voilà, c'est mon tour.
Rien à voir. Moi, trouve aujourd'hui, une petite transition, ouais.
Ouais, je vais pas vous mettre sur les cimes enneigées, mais on cuisine. Alors, je vous entends, les féministes qui vont me dire, mais non, on en a ras-le-bol, la libération, la femme, tout ça. Mais déjà, on peut être en cuisine avec son conjoint, son mari, son frère. Voilà, on n'est pas obligé d'être toute seule en cuisine. Mais le fait de cuisiner est vraiment la pierre angulaire de votre transition écologique. Si on ne cuisine pas, ce qui nous arrive à toutes et ce qui m'arrive aussi, soir de flemme, speed, voyage, il y a plein de choses, voilà. Mais si on ne cuisine pas, déjà, je pense qu'on respecte moins ce qu'on a dans l'assiette. On paye plus cher, ça c'est l'argument massue, ça vous sûr que ça vous coûte plus cher. C'est plus carboné en général parce qu'il y a plus de transport, parce qu'il y a plusieurs aliments dans ce que vous avez acheté qui est préparé et peut-être aussi des choses qui viennent de plus loin, etc. Plus emballé, donc il y a Il n'y a pas grand-chose de très positif dans le fait d'acheter de la nourriture toute faite. Il vaut mieux d'ailleurs aller...
C'est quoi la nourriture toute faite? Qu'est-ce que tu entends par la nourriture
toute faite? Issue de l'industrie. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose qui a déjà été transformé. Alors après, si tu as un petit restaurant dans ta rue qui fait une cuisine de jour, une cuisine quotidienne, locale, tu descends avec ton tupperware, tu prends un truc pour le soir, voilà, c'est la même empreinte que ta cuisine. Mais il faut bien connaître quand même les gens qui te fournissent tout ça. Et on connaît pas Monsieur Picard, on connaît pas Monsieur Findus et on connaît pas, je sais pas quoi, tous ces trucs préparés. C'est, à mon sens, c'est une hérésie. Déjà d'un point de vue du goût. Enfin, c'est très salé. Il y a beaucoup d'exhausteurs. D'ailleurs, les enfants, ils adorent les gyoza surgelés, là, les machins. Hein, ils adorent parce que c'est blindé de sel, etc. Ou même il y a pas mal de sucre aussi. Donc il faut cuisiner. Je sais que nos vies, là, mais la cuisine peut être aussi une façon de méditer. Ça peut être un moment tranquille qu'on a en écoutant la radio, en écoutant Décodeur Podcast aussi. c'est un moment. Moi, je trouve que c'est un moment qu'on a trop. Moi, mes parents, s'ils m'entendaient dire ça, ma mère, elle serait horrifiée parce qu'elle cuisine. Mais bon, elle, pour elle, c'était la libération hein, d'avoir de la mayo en tube, toutes ces petites facilités, des plats surgelés qu'on sort vite fait, le micro-ondes, je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est une très mauvaise idée aussi. Je trouve que cuisiner, mais à son niveau, on n'est pas obligé de bien cuisiner. On peut faire des choses très, très simples en prenant les aliments premiers et les mélanger soi-même. En plus, on le fait selon son goût. Il y en a qui aiment épicé, pas épicé, spicy. Enfin, spicy, c'est la même chose, mais avec du gingembre, sans gingembre. Enfin, je veux dire, on peut vraiment trouver sa façon de faire. Et en plus, je trouve que la littérature sur le sujet est énorme. Je vous ai pris quelques exemples, mais prenez vraiment le livre qui vous convient. C'est-à-dire que si vous aimez cuisiner que la bouffe asiatique, ben il faut trouver, un bouquin sur les bouillons ou un bouquin... Et surtout, on n'est pas obligé d'acheter des beaux livres ou des livres d'un chef ou des livres de... Moi, j'avoue que j'aime bien suivre quelqu'un parce que j'ai l'impression de pas être toute seule en cuisine. Je trouve que c'est une caution d'acheter le livre d'un chef ou d'un autre, mais on peut aussi acheter des tout petits livres. Vous savez, les petits livres pratiques là aux caisses, se mettre à la lactofermentation ou aux conserves ou c'est sans fin. Et surtout la cuisine, ce qui est génial, c'est que quand on s'y met, c'est vraiment extrêmement vertueux, c'est-à-dire que quand vous prenez du temps pour cuisiner, déjà l'expérience rentre. Moi, je cuisine mieux maintenant qu'il y a 10 ans et mieux il y a 10 ans qu'il y a 20 ans. Ah, parce que les escalopes de poulet à la crème avec les petites recettes de Nicolas à 20 ans, je ne ferais plus ça maintenant. Mais j'ai commencé comme ça et voilà, je pense que c'est un truc qui s'apprend et on a tous nos plats qu'on fait mieux que d'autres. Il y en a qui cuisinent super bien la viande, d'autres qui cuisinent mieux les desserts. Enfin bon, chacun, voilà. Et surtout, moi, j'entends trop de gens se dévaloriser finalement en disant « Ah, mais moi, je sais pas cuisiner. » Et vraiment, c'est pas comme les mathématiques, la cuisine, parce que ça peut être... D'ailleurs, il paraît que les mathématiques, c'est pareil, on peut tous être bons en maths. Mais ce que je veux dire, c'est
non,
que...
Non, c'est pas possible.
mais je crois que si, parce que nous, on a fermé nos cerveaux aux mathématiques. Mais finalement, il y a plein de techniques maintenant pour les ouvrir. Mais la cuisine, c'est aussi assembler des couleurs, enfin... Pour le coup, je trouve que ça relève vraiment d'un lifestyle et de la décoration parce que c'est
très joli.
Moi, je vous ai déjà parlé de vaisselle. Bon, voilà, moi, j'adore la vaisselle, mais il faut bien mettre des trucs dans la vaisselle. Moi, j'ai aucune envie de mettre un plat de lasagne surgelé dans mes jolis plats que j'ai chinés. Donc, je trouve que voilà, il y a tout un truc hyper important et surtout, vous faites vos courses. Et en fait, si vous faites vos courses, au bout d'un moment, vous allez dire, ça, c'est cher, ça, c'est plus cher que ça, ok. Vous allez voir que vous remplissez moins votre poubelle d'emballage parce que vous achetez moins de trucs emballés, que vous vous passez de tels trucs que vous pensiez vraiment, c'est pas possible, je peux pas me passer de ce truc. Ben, finalement, si, c'est hyper facile à faire, je le refais moi-même. Après, on fait pas tout. Il y a des trucs que je sais pas faire, mais il y a des trucs où je me dis, ah, super, j'ai réussi à faire, du pain, ou j'ai réussi à faire... Donc, je trouve que chacun peut y aller à son rythme, comme il veut. Et oui, c'est un peu de temps, mais c'est du temps pour soi, en fait. Et c'est pas, ok, c'est bien d'aller se faire masser les ongles, le truc, le machin, je prends du temps pour moi, etc. Mais la cuisine, c'est aussi du temps pour soi. Parce qu'on se fait du bien, on achète des choses qui sont meilleures. Donc, avec tous les petits soucis qu'il y a en ce moment avec les agriculteurs, je pense que tout le monde va bien s'en rendre compte que si on n'achète pas au juste prix, que si on ne fait pas attention aux filières qu'on soutient finalement en achetant, vous soutenez. Donc tout ça, toutes mes raisons un petit peu, on va dire, engagées, arrivent au même point. Il faut cuisiner et c'est comme ça, je trouve, qu'on arrive à contrôler complètement cette partie-là de sa vie et à être complètement en transition écologique. Donc, je vous ai fait une petite sélection de livres. Évidemment, elle n'est pas exhaustive. Pardon, il y en a des millions, tous plus beaux les uns que les autres. Bon, si je dois commencer par un, parce que j'ai commencé par celui-là, mais il est même pas réédité, mais vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin. Je sais cuisiner de Ginette Mathiot aux éditions Albin Michel, qui était un cadeau de mariage dans les années 70. Mes parents l'avaient eu en cadeau de mariage et donc j'ai celui-ci. Donc c'est rognon à la crème, meringue, enfin que des cuisines françaises,
bœuf bourguignon,
blanquette de veau, comment faire un roux, etc. Donc pas très branché. Mais Ginette Mathiot est une professeure d'art ménager. Elle a une vie super et une tête super. Regardez sur Wikipédia, elle est vraiment charmante. Et je trouve qu'on commence comme ça, et puis c'est sympa de savoir faire un bourguignon de temps en temps, ou voilà. Et puis, dans le genre bien cuisine classique aussi, il y a La cuillère d'argent de Faydon, je sais jamais comment on dit, édité chez Faydon. En fait, c'est... Faydon a entrepris un projet qui est intéressant. Moi, je connais bien La cuillère d'argent, parce que c'est la cuisine italienne, mais ils l'ont fait sur d'autres cuisines. Ils prennent tous les bouquins de cuisine, comme par exemple un Ginette Mathiot, etc. Et il le compile dans un ouvrage de référence sur la cuisine du pays dont on parle. Donc la cuillère d'argent, pardon, c'est vraiment toute la cuisine italienne, mais pas les pizzas et les pâtes, la viande, les ragoûts de poisson, enfin tout, même plein de desserts, des beignets. Quand on va en Italie du Sud, il y a des choses très différentes, etc. Et c'est une pépite. Il y a des tonnes de recettes, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, donc il faut un peu se projeter. Mais à chaque fois que je me suis lancée, j'ai été contente. Et l'avantage, c'est que ces deux livres, la Ginette Mathiot et La cuillère d'argent, travaillent avec des produits qu'on trouve très facilement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de courir les épiceries dans tous les sens pour faire une recette. Donc, c'est super sympa. Moi, je travaille beaucoup pour l'univers de l'enfant. Donc, j'ai quand même deux livres que je voulais vous conseiller pour cuisiner avec vos enfants. C'est ultra sympathique. C'est hyper pédagogique.
J'adore ça.
Les recettes, c'est des mathématiques. Donc, voilà, divise, multiplie, nan. C'est hyper sympa. Oui, il y a un peu de farine par terre.
Oui, et d'huile.
Voilà. Mais en grandissant, ce qui est génial, c'est de voir que le petit avec qui vous avez cuisiné des cookies, à 14 ans, il aime toujours faire des sablés et que ça apaise les mœurs, on va dire. C'est quand les mauvais bulletins arrivent ou je sais pas quoi. La cuisine, c'est vraiment hyper sympa à partager avec les enfants. Et il y a deux livres que moi, j'aime beaucoup. Un pour les petits, je dirais, qui s'appelle « Je sais cuisiner » aux éditions Les Arènes par Ifumio et Nina Davidson. C'est moitié illustration, moitié photo. On apprend à faire des chewing-gums, des gaufres, des bonbons, les roux doudous.
Tout ce qu'ils aiment, quoi.
Tout ce qu'ils aiment. c'est hyper joli, les recettes sont super simples. Évidemment que les recettes, c'est pas une invention. C'est des choses que vous connaissez, que vous pouvez trouver sur les trucs en ligne. Mais c'est tellement charmant, hyper mignon, et ça donne vraiment envie de cuisiner avec même des tout tout petits. Et il y en a un autre qui est sorti il y a pas longtemps, je crois l'année dernière, qui s'appelle Mange tes légumes, de Stéphanie Antoine et Pauline Beauvais aux éditions La Martinière. Donc Stéphanie Antoine, c'est une chef hyper maline qui arrive à coller des légumes sur plein de sauces différentes. Pas sauce, des sauces, elle les cuisine de manière différente, c'est ce que je veux dire. Et Pauline les met en mots, c'est hyper drôle, vraiment. Moi, je me régale à...
Je l'ai, moi, ce livre.
Il est sympa.
Par exemple, t'as les choux-fleurs et t'as trois recettes autour du chou-fleur, la moins sympa.
Genre la beurk, moitié beurk, ou je sais plus quel mot elle utilise.
C'est que j'en ai fait plein, des recettes.
Et c'est très savoureux. Ouais. Et franchement, moi, avec les deux, trois réfractaires que j'ai à la maison, j'ai réussi à faire manger des trucs nouveaux, parce que c'est ça. ça, en fait. Finalement, on se dit, oui, mon fils, il aime pas ça. Mais il aime pas ça aujourd'hui. Il faut lui reproposer sous une autre forme. Et c'est comme ça que le palais se travaille. Et moi, c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié à un moment. Et ce bouquin m'a aidé à aller, on reprend le flambeau et on va leur refaire, reproposer tel légume ou tel légume. Donc, hyper sympa. Ensuite, voilà, j'ai appelé ça cuisiner de tout bois, mais c'était voilà, il n'y a pas de style particulier, pas de recette particulière, mais il y a un nouveau concept qui s'appelle Cloche, qui est très sympa. C'est un site internet. Vous choisissez votre nombre de pages du livre que vous allez recevoir. Vous pouvez écrire, vous pouvez l'offrir, vous pouvez écrire mon bouquin de cuisine ou mes desserts ou le livre pour maman ou j'en sais rien, comme vous voulez. Et vous choisissez les recettes. Ce sont des recettes assez simples qui sont faites par la fondatrice de Cloche où elle est aussi en cheville avec des influenceurs cuisiniers ou des cuisiniers, etc. Donc, c'est des recettes simples du quotidien avec une petite dose thaï, asiate. Enfin, vous pouvez trouver des choses très originales, non, on va dire originales ou classiques, mais hyper sympa. Et donc, vous composez votre bouquin et vous le recevez à la maison avec que des desserts ou que des entrées ou alors que des recettes faciles.
Qui te tentent.
Voilà,
quoi,
si t'as envie pour ta fille qui s'installe toute seule,
c'est
bam,
pas
des.
Bête, ça.
Donc, très sympa. Ils ont toute une direction artistique qui est assez jolie. Donc, allez-y, c'est vraiment pas mal. Un autre tout petit livre qui est vraiment paypad mine, et c'est un carré comme ça, souple, etc., mais qui s'appelle Je découvre la fermentation. Alors, n'ayez pas peur, parce que moi, au début, la fermentation, je ne sais pas du tout pour moi, c'est de la chimie, ça va me saouler.
J'ai galéré moi aussi.
Ouais, j'ai raté 800 choses. Ah bah, il faut accepter de rater en cuisine.
Bon, très longtemps.
On rate, voilà.
Mais
j'ai trouvé une recette dont Je découvre la fermentation aux éditions Terre Vivante, c'est le vinaigre d'épluchure de pommes, et ça, je peux vous dire, c'est 2 secondes 30. Tarte aux pommes, épluchure, je les lave dans de l'eau avec une cuillère de sucre. 6 semaines après, vous avez un vinaigre de pommes exceptionnel. Bon, il y a d'autres recettes que j'ai ratées dans le truc, mais celle-là, je la fais tout le temps. Et c'est ça qui est génial dans un livre, c'est qu'il laisse des traces en vous que vous retenez. Et après, vous n'avez plus besoin du bouquin. Et vous, c'est intégré dans votre façon de faire. Donc ça, je trouve ça très, très vertueux. Il y a aussi un éditeur qui s'appelle Gisro. C'est un éditeur qui distribue, enfin qui édite tout un tas de livres sur la culture, qui est beaucoup vendu dans les musées, dans les librairies, etc. Dans la France entière. Ça s'appelle Les recettes du poissonnier, 125 manières de préparer poissons, crustacés et coquillages. Moi, je trouve que les poissons, crustacés et coquillages, c'est plus difficile. On en mange moins, je veux dire, dans les villes, c'est quand même pas le truc qui arrive le plus vite et le moins cher. C'est quand même assez, c'est un mets assez
coûteux.
Coûteux pour les foyers. Mais quand on le fait, alors ça, c'est vraiment le livre à l'ancienne. Vous savez, les coquilles Saint-Jacques avec la béchamel et la chapelure, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce plat. Bon, voilà, il y a tout un tas de recettes
dans
comme ça.
Dans la Saint-Jacques.
Oui, la Saint-Jacques. Tout un tas de recettes comme ça. Les photos sont très rétro. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. Alors après, je vous en parlais, il y a Cuisiner avec les chefs, qui est intéressant. Vous suivez, enfin, moi, il y a des chefs que j'achète les yeux fermés. Otto Lenghi, je suis pas du tout original, évidemment. Alors, tous ces livres en France sont édités chez Hachette Cuisine. Et lui, il est génial. Alors oui, il faut un petit peu des ingrédients, etc. Mais finalement, si on n'est pas trop rigide et qu'on accepte qu'il nous manque le piment à la fleur de rose égyptien, eh ben tout se passe bien. Et il met toujours une petite saveur en plus. Il cuisine des aliments qu'on connaît, mais avec des petites épices et des cuissons qui font que c'est vachement plus sympa.
Ouais, mais du coup, t'apprends. Moi, j'ai vachement appris à quel point c'était important de parfumer ces plats.
Ouais, exactement.
Tu vois, de mettre plein de choses.
Et
ça
finalement,
change tout.
Une fois que t'as 5 trucs,
tu mets
tes oignons,
tu veux,
tu mets un peu de curry ou un petit peu de. Tu vois, c'est pas un réflexe forcément qu'on va avoir, mais une fois que tu le chopes, ça parfume et c'est hyper sympa.
Tout.
Ouais. Voilà, et il y en a un, alors c'est pas vraiment une chef, mais il y a Aurélie Saada, donc vous savez, c'est la chanteuse, elle était la moitié de Brigitte. Elle a sorti un livre qui s'appelle Cuisiner le soleil, toujours chez Hachette Cuisine. Hachette Cuisine, c'est un super éditeur de livres de cuisine, ils ont vraiment beaucoup de trucs sympas. Et c'est hyper sympa, c'est une cuisine assez simple, hyper gourmande, beaucoup de miel, beaucoup d'huile d'olive, et puis les photos sont super, elle est très elle est très, elle a une culture de sa famille de Tunisie. Enfin, il y a tout ça. On entend tout ça dans les recettes. C'est très généreux et très sympa. Et puis, alors sinon, juste pour ne pas cuisiner et être dans votre canapé à regarder un bouquin, ça peut être sympa aussi juste de s'inspirer. Il y a des livres que je n'utilise pas, mais que je trouve magnifiques. Cuisine française, de Jean-François Piège aux éditions Hachette Cuisine. Alors, c'est un livre, une bible comme ça. C'est un coffee table book pour ceux qui ne veulent pas cuisiner. Évidemment, il y a les recettes du bourguignon. C'est des recettes extrêmement classiques, un peu longues. Mais alors, c'est photographié, c'est sublime. Vraiment, le bouquin est magnifique. Donc, c'est...
Bel objet.
Voilà, je ne sais pas si je ferai quelques cuisines. Et un autre qui s'appelle le guide, mais il y en a deux d'ailleurs, le guide de la fermentation de Noma. Vous savez, Noma, c'est ce restaurant en Scandinavie, voilà, de René Redzepi, qui a été le meilleur restaurant du monde pendant des années. Et ils ont sorti deux livres, un qui s'appelle Noma et un autre qui s'appelle le guide de la fermentation de Noma, qui sont des livres magnifiques. Les photos sont vraiment, mais très très belles. Mais en tout cas, moi, avec mon niveau, je ne me lancerai pas dans les recettes. Mais c'est très joli à regarder et ça vous inspire pour d'autres choses. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de faire deux, trois recettes ce soir.
Ah ouais. Et toi, est-ce que tu as un bouquin, par exemple, tu sais, qui te suit depuis des années ou finalement tu reviens toujours à ce bouquin ?
Moi, je reviens toujours vraiment sur Simple d'Autolinguy. Ouais. Parce que oui, il est simple et c'est vraiment waouh. Tout de suite. Moi, j'aimais beaucoup Jamie Oliver. C'est très démodé.
Ouais, ouais, mais moi aussi, j'ai.
Il y a plein de recettes que j'ai gardées, genre le gravlax à la betterave, des trucs comme ça. Je trouve très sympa. Et après, il y a les bouquins d'Alice Roca ou d'Angèle que je consulte. Ouais, une fois par semaine, quoi. Tiens, qu'est-ce que je fais avec ce potiron ? J'en ai ras-le-bol de la soupe. Comment on peut faire pour un peu changer le truc ? Même si c'est toujours le potiron, parce qu'en France, si tu manges local.
Du potiron.
C'est choux, potiron, pommes de terre.
Céleri.
Ouais, c'est pas très varié. Donc voilà, c'est ces bouquins. Okay. Je tourne un peu avec ces livres. Mais j'adore les bouquins de... Je les collectionne un peu. J'aime bien en acheter, même si je cuisine pas. Je les ouvre, je les regarde. Mmh. Mais effectivement, c'est... Tu vois, celui de Jean-François Piège, c'est pas un livre avec lequel je vais cuisiner. Je le sais parce que c'est... Mais en revanche, il est vraiment hyper, hyper beau.
Alors moi, il y a deux astuces qui me venaient, je me permets, en t'écoutant. Mmh. Je me disais, parce que tu disais, oui, c'est prendre du temps pour soi de cuisiner, sauf qu'évidemment, quand on rentre à 19h, du temps pour soi, j'aimerais bien que ce soit autre chose que cuisiner.
C'est très bien
dîner,
de quoi tu vas parler, qui est super.
Non, j'allais dire deux choses, parce que j'ai pris un livre à la bibliothèque l'autre jour qui donnait ses conseils, qui étaient déjà de faire des courses, et quand tu as un frigidaire plein de produits frais, ça change tout, parce que tu cuisines mieux, c'est sûr. Donc, on a tendance à acheter un petit peu tous les deux jours, de faire des petits plats.
Limite au jour
le
jour.
On ne fait pas petits plats, justement, on achète. Ouais. Ah ben, on prend quoi ce soir ? T'achètes un peu au dernier moment, et ça, finalement, c'est pas bien.
Ouais.
C'est un peu.
Mais il faut prévoir à l'avance. J'ai un peu de mal.
Prévoir à l'avance. Et la deuxième chose, dans le sens de prévoir à l'avance, dans ce bouquin de la bibliothèque, la fille, elle faisait des semaines de recettes. C'est-à-dire que quand t'as envie de cuisiner, c'est le dimanche après-midi, t'es contente. Effectivement, là, c'est une activité avec tes enfants. Et là, en fait, c'est parti. Tu fais une quiche, un machin, des petits palets de légumes, tu fais des desserts, des compotes ou je sais pas quoi. Et là, tu prends le temps. Mais c'est vrai que moi, à 19h, par exemple, tu parlais de Picard. Alors, Picard, ils ont aussi des bonnes choses parce qu'ils ont quand même des légumes et tout ça qui sont extrêmement frais.
Leur soupe, c'est quand même
les meilleurs.
Il y a plein
de vitamines, etc. Ouais. Mais c'est sûr que tes lasagnes.
Oui, c'est rien à faire. Oui, mais moi, faut éplucher les légumes.
Oui, mais ça s'appelle le batch cooking, là, ce dont tu parles, et c'est le fait de cuisiner tout brut pour la semaine et ensuite d'agrémenter. Donc, tu cuis ta céréale, tu cuis les légumes et tu les cuis peu. Et ça, c'est très bien aussi pour les légumes, parce que les trucs cuits et recuits et recuits, tu perds vachement les minéraux, les nutriments, etc. Et ensuite, tu mélanges une salade, tu fais un plat avec une viande et tout. Ça, c'est hyper bien. Moi, je le fais souvent. Mais d'ailleurs, quand tu vois dans ton orga quotidienne, tout est un peu comme ça. C'est-à-dire, tu fais pas tout tous les jours, mais tu t'organises, t'anticipes, tu fais tout le temps ça. Quand t'as une famille, etc., t'es obligé. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ça. En plus, tu te fous de la musique à fond, t'es toute la journée dans ta cuisine avec tes enfants, ça peut être sympa, tu vois, comme journée. Donc ouais, il y a plein d'astuces.
Il y a un dernier truc, mais alors qui n'a rien à voir avec le sujet. Si, moi, que j'ai découvert, enfin, ça a été le confinement et tout, parce que je cuisinais absolument pas et je m'y suis mise et maintenant j'adore. Je sais pas si c'est bien de le dire, mais c'est Instagram. Il y a un nombre de recettes sur Insta. Et c'est, tu vois, parfois, je reviens d'un rendez-vous, je suis dans le train, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Clac, je vais regarder les deux, trois comptes que je suis. Et il y a des trucs qui sont simplissimes, avec des produits frais. Et c'est hyper simple. Hein. C'est, moi, ça m'a sauvé la vie. Hein,
oui, il y a des comptes qui partagent des recettes.
Ah ouais.
Mais souvent, tu fais une capture d'écran, puis au moment, tu n'y penses plus.
Moi, je ne fais pas de capture d'écran.
Ouais, j'enregistre.
J'archive. Parce qu'après, j'aime bien écouter la fille raconter. Je la vois faire. Puis alors, en plus, il y a les gestes. T'as l'impression que c'est hyper facile à faire parce que c'est en condensé, donc t'as l'impression qu'en deux minutes, ton truc
va être fait.
Que la
recette est faite en deux secondes.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Mais c'est vrai, Insta, il y a plein de comptes. Moi, j'en suis plein. Je suis le renard et les raisins, elle est trop drôle. Elle fait des super recettes vegan, sans gluten. Moi, je suis pas très bonne, tu vois, pour ces trucs-là. Et elle, elle est en deux secondes, elle te fait des petits pains avec des lentilles corail et franchement, c'est facile à faire.
Ça donne envie.
Ouais, Insta, c'est sympa aussi. Ouais. Après, je trouve que de temps en temps, j'aime bien avoir un livre ouvert et de pas toujours être connectée.
Je fais tout, j'aime bien tout.
Oui, parfois, tu as des lives. Miss Man Kitchen, elle fait des lives le dimanche à 11h.
C'est plus pour la semaine, moi. La semaine, je suis sur Insta et le week-end, je suis sur les bouquins.
Exactement. Ouais. Mais même, ne serait-ce que pour t'inspirer, si t'es là avec, t'as ça comme légumes, parfois, maintenant, tu mets juste... Il y a un autre livre aussi dont je voulais vous parler, mais qui est peut-être... c'est pas qu'il est hors sujet, mais en fait, il faut avoir un Thermomix et quoique. C'est un truc Instagram, ça, c'est Lise, ça s'appelle Youmix, Y-U-2-M-I-X. Elle fait que des recettes avec le Thermomix, donc comme son nom l'indique, mais elle donne plein d'idées de topping, de façon de mélanger les choses. Et finalement, si vous avez un mixeur et voilà, vous pouvez vous débrouiller avec, c'est juste que ça nous facilite quand vous avez un Thermomix, elle facilite vraiment la tâche parce qu'il y a les temps de cuisson, etc. Mais vraiment, c'est génial, c'est hyper savoureux. Et la dernière en date que j'ai vue sur son compte Insta, et on n'a pas besoin de Thermomix, et je finirai là-dessus pour pas trop vous embêter. Vous prenez des graines de courge que vous mettez dans une cuillère d'huile d'olive et une cuillère de miel. Vous mélangez tout ça, là, voilà, comme ça. Ensuite, ça durcit. Vous le cracotez et vous le mettez dans vos soupes. Vous le mangez comme ça à l'apéro, voilà. Mmh. Et elle donne plein d'idées comme ça qui se font en deux secondes.
Ouais. Toute la différence,
c'est
en plus.
C'est vrai que moi, je peux y penser, mais c'est plus sympa la soupe avec un petit quelque chose
dessus.
Ah ouais,
mais ça donne plein d'idées.
Donc, elle est hyper forte pour ça. Et le bouquin est très joli. Et d'ailleurs, c'est auto-édité. C'est elle qui fait toutes les photos, la mise en page, le truc. Donc, elle est impressionnante, cette nana.
Bon, super. Je ne sais pas si tu as déjà ton idée de chronique pour la prochaine fois.
Mais vous pouvez la commander.
Tu as abordé un sujet tout à l'heure. Tu es contre le micro-ondes et j'aimerais bien qu'on creuse l'idée. Tu vois, ça pourrait être une idée
sur la cuisson,
sur l'équipement.
Ce qu'il ne faut pas qu'on ait chez nous.
Ce qu'il ne faut pas. Ouais.
Les objets interdits.
Ouais.
Tu vois ?
Déjà, le micro-ondes, d'un point de vue de décoration, pardon, mais c'est immonde. Donc, on peut s'en passer très facilement.
C'est pas du tout immonde. Il y a plein de choses maintenant. Ah non, tu peux pas le
cacher.
Je regardais un reportage. Si, tu peux mettre une porte, mais il disait, en fait, c'est vraiment pas pratique.
C'est vrai.
Tu vois, tu soulèves le truc, tu fais réchauffer ton lait ou je sais pas quoi, t'es encombré. Bon,
on va. Je creuse. On va se reconvertir dans la cuisine parce que n'empêche que elle, sa rubrique, elle est hyper longue. Tout le monde l'écoute. On papote. Alors que nous,
les tendances, on a tout
mais
écouté.
Parce que c'est plus
les perroquets.
Plus,
on a bien
de tout le monde.
Mais je rigole. C'est une vraie petite conversation de bonne femme.
Oui.
Bon alors les enfants, sinon ça.
Non,
va.
Pas justement, pas de bonne femme parce qu'il faut que ce soit partagé. Et il y a des hommes qui cuisinent super bien
avec
de plus en plus.
Faire cuisiner les fils.
Ah oui, c'est sûr.
Moi j'ai que ça.
Les fils, c'est vrai.
Bon boulot les gars.
Bon merci beaucoup les filles
et
les garçons. À bientôt.
À bientôt.
Ciao, bye.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.